invite ce matin à deux lectures. La première, dans la première aux Corinthiens, chapitre 16, le dernier chapitre de cette première aux Corinthiens. Et ensuite, nous irons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons parler de portes aujourd'hui. Il existe pas mal de types de portes. Il y a les portes d'entrée. Généralement, celles-là sont solides. Ça nous évite d'avoir des visiteurs non prévus. Il y a les portes de sortie de secours, et pour nous qui avons ce que nous appelons un établissement recevant du public, les portes de secours, c'est très important parce qu'il faut qu'elles soient accessibles. Il faut qu'on puisse les ouvrir facilement afin d'évacuer des grandes foules si besoin est. Il y a aussi les portes palières, vous savez, les portes qui nous permettent d'accéder à un niveau supérieur. Il y a aussi les portes de garage et les portes de placard. Celles-là, elles sont moins agréables, surtout si vous avez expérimenté ce genre de choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler des portes que Dieu ouvre. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul ici, 1 Corinthiens chapitre 16. On va lire à partir du verset 7, il s'adresse aux Corinthiens depuis Éphèse justement, et il leur dit ceci: « Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande est ouverte et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont au nombre. Une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. » Et puis nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, donc verset 8, et cette lecture va un peu nous expliquer le contexte du verset que nous venons de lire, ce qui est en train de se passer à Éphèse. Verset 8, donc Paul est à Éphèse, et là il entra dans la synagogue où il parla librement. Et pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juste une parenthèse, l'Asie, c'est pas comme aujourd'hui, depuis la Turquie jusqu'au Japon, là-bas. À l'époque, l'Asie, c'était simplement la région côtière occidentale de la Turquie, là où les gens vont se faire bronzer aujourd'hui. Juifs et Grecs entendirent donc la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Et quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !» Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ça fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc, après plusieurs mois, même plusieurs années de travail dans la ville d'Éphèse, alors que Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit ceci concernant son ministère dans cette ville: une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Sans oublier de rajouter que les adversaires étaient nombreux. Le temps de ministère que Paul consacra à Éphèse fut un temps exceptionnel à bien des égards. D'abord par la durée de son ministère, 3 ans, c'est le plus long. Le double de ce qu'il a consacré à la ville de Corinthe. Mais je pourrais dire aussi que ça a été le temps de ministère le plus puissant en termes de miracles. Vous avez vu, qualifié d'extraordinaire. Pour moi, miracle, c'est extraordinaire. Alors, un miracle extraordinaire, c'est encore plus extraordinaire, et j'ai du mal à concevoir ce que ça pouvait être, mais en tout cas, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances et des choses assez étonnantes, puisqu'on portait même des tissus qui avaient touché le corps de Paul sur les malades, et les malades étaient guéris. Il y a eu aussi des délivrances, avait même des victoires spirituelles majeures, comme le jour où des personnes sont venues brûler leur livre de magie, là, publiquement. Le ministère le plus long, le plus puissant, le plus impactant. Géographiquement parlant, non seulement pendant 2 ans, Paul a enseigné tous les jours la parole et toute la ville d'Éphèse a été remplie d'évangiles, mais il nous a dit que c'est toute la région autour d'Éphèse, la région d'Asie, qui a entendu parler du Seigneur. Il y a eu aussi un impact social. Toutes les couches de la société ont été touchées par l'évangile, puisqu'un peu plus loin dans ce chapitre, il nous est dit que parmi les amis de Paul, il y avait ceux qu'on appelait les Asiarques. Et les Asiarques étaient les ministres, en quelque sorte, de la ville d'Éphèse. Donc, partout, l'évangile avait pénétré. On peut dire aussi que même religieusement, l'évangile avait bouleversé les choses. Dans cette ville, il y avait l'un des plus grands temples de l'époque, le temple de la déesse Diane, un temple païen. Et à cause de l'évangile, le texte nous dit que le temple était délaissé. Les gens venaient écouter l'apôtre Paul prêcher, gloire à Dieu. Donc, le plus long, le plus puissant, le plus impactant, mais aussi le plus éprouvant. Pendant plus de 3 ans, Paul a travaillé nuit et jour. Dans cette ville, il y avait son ami Aquilas, et ils avaient tous les deux le même métier, ils étaient faiseurs de tentes, et le matin, Paul travaillait. Métier dur, hein, faiseur de tentes. Et des traditions nous disent qu'à 11 heures, il allait dans cette école de cet homme nommé Tyrannus, un professeur, et là, pendant plusieurs heures, il enseignait les choses du royaume de Dieu. Et le soir venu, il ne s'arrêtait pas pour prendre du repos, il allait encore dans les maisons, de maison en maison, pour exhorter, encourager, édifier, enseigner, et ainsi ne rien cacher de ce qui était utile pour les frères et sœurs. Vraiment, Paul a travaillé. Et en plus, il faisait face à une grande adversité. Il le dit, les adversaires sont nombreux. Dans 1 Corinthiens 15, 31, donc dans la première aux Corinthiens qu'il écrit depuis Éphèse, il leur dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort. » Et il dit même ceci « J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. » Dans la deuxième aux Corinthiens, toujours écrite depuis Éphèse, quelque temps après la première, donc, il leur dit, au chapitre 1er, verset 9, « Nous regardions comme certains notre arrêt de mort. » Vous savez, nous, quand on pense à un réveil, on regarde toujours le côté qui nous intéresse. En oubliant le prix aussi qu'il y a à mener pour vivre un réveil. Et là, Paul, lui, a accepté de payer le prix pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, donc, nous allons parler, je l'ai dit au début, de portes. De portes que Dieu peut placer devant nous. De portes extraordinaires, Paul dit, de grandes et efficaces portes. Et puis, je voudrais aussi vous montrer comment Dieu est prêt à disposer une porte pour notre vie, une porte pour notre Église, et comment il rendra et nous rendrons cette porte efficace malgré les oppositions. Parce que c'est vraiment ce que je veux partager avec vous ce matin, face à tous les impossibles. Le Seigneur nous a ouvert une porte ici à Paris. Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Et je crois même que nous sommes à la veille de voir cette porte ouverte prendre une dimension encore plus grande que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Le voulez-vous ? Oh oui, Seigneur, même si les adversaires sont nombreux. Hein. Deux types de portes dont je voudrais parler, des portes que Dieu peut nous donner. La première, c'est une porte d'espérance. Osée, chapitre 2, verset 17, le Seigneur dit, je lui donnerai une porte d'espérance. Il est question ici de Dieu qui donne une porte à Israël, alors qu'Israël est dans un temps de lamentation, un temps d'affliction, de tourment. Ça s'appelle la vallée d'Achor, la vallée des larmes. Et Dieu dit, mais là au sein de cette vallée, je viendrai placer une porte. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je le dis déjà, c'est Dieu qui donne une porte. Ce n'est pas l'homme qui fabrique une porte, c'est Dieu qui donne une porte, c'est une initiative divine. Et je veux dire aussi que Dieu peut placer une porte dans les endroits les plus serrés, les plus sombres, les plus tristes de notre vie. Et face à tous les obstacles, toutes les détresses qui se dressent devant nous, nous devons croire que Dieu est capable de placer une porte là où il n'y a aucun moyen de sortie ou d'avancer, mais que Dieu est aussi capable de percer des portes dans les murailles les plus épaisses. Bien plus, quand Dieu place une porte, c'est toujours une porte d'espérance dont il s'agit. Autrement dit, quand Dieu donne une porte, il y associe toujours une dimension de promesse. Les portes que Dieu donne ne débouchent jamais sur des placards. Et Dieu est prêt à placer devant nous une porte qu'il nous appelle à franchir en vue de choses meilleures. une porte d'espérance, mais aussi une porte d'autorité. Avez-vous déjà visité quelques villes fortifiées en France, Provins, Guérande, Carcassonne et d'autres encore? Et vous savez donc qu'il y avait ces portes massives et c'était des lieux stratégiques. Parce qu'à l'époque, on ne rentrait pas comme on voulait dans les villes, elles n'étaient pas ouvertes, il y avait des murailles. Et les portes contrôlaient les entrées et les sorties des populations. Les portes aussi étaient des lieux de commerce, donc de création de richesses. Et des lieux, notamment en Israël, où on exerçait la justice. La justice se tenait à la porte des villes. C'était donc des lieux stratégiques, des lieux de richesse, des lieux de pouvoir et des lieux à défendre. Au point que quiconque contrôlait la porte d'une ville, contrôlait la ville. Le Seigneur fit cette promesse à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire nous. Genèse 22, 18. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Posséder la porte de nos ennemis. Posséder cette porte, c'est déjà avoir autorité sur eux dans le nom de Jésus. Posséder la porte de nos ennemis, c'est déjà posséder tout ce qu'il y a au-delà de cette porte et auquel la porte nous donne accès. En quelque sorte, dans un langage biblique, posséder une porte, c'est posséder les prémices de la bénédiction à venir. Dieu est capable de nous donner une porte d'espérance. Quand nous ne trouvons pas de sortie par rapport à une situation douloureuse, dans les moments les plus terribles, dans la vallée d'Achor, Dieu est capable de placer une porte d'espérance. Et Dieu est capable aussi, par la puissance du Saint-Esprit, de percer pour nous dans les murailles les plus dures, les plus épaisses, une porte d'autorité, une porte de puissance, une porte qui nous donnera des accès jusqu'au cœur de la cité. Quand tout semble s'opposer à nous, ou au projet de Dieu, quand tout semble être fermé devant nous, Dieu place des portes où il veut. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne pourrait pas placer une porte. La ville d'Éphèse semblait inaccessible. Éphèse était une grande ville. Certains historiens disent qu'elle était la seconde ville de l'Empire romain. En taille, plusieurs centaines de milliers de personnes l'habitaient. C'était un port, c'était une zone de commerce, c'était un centre politique, c'était un centre culturel, c'était aussi un centre religieux très important, puisqu'il y avait là le plus grand bâtiment de l'époque, le temple de Diane, une des sept merveilles de l'Antiquité. Mais ce temple était un lieu d'idolâtrie, notamment marqué par la sorcellerie. Les grimoires d'Éphèse étaient très connus à l'époque. Et c'était aussi un culte marqué par l'immoralité et les prostituées sacrées. Donc régnait sur cette ville d'Éphèse une atmosphère spirituelle des plus repoussantes. C'était le paganisme à son paroxysme. L'idolâtrie, la sorcellerie, l'immoralité, l'argent, etc., etc. Est-ce que ça empêchait Dieu d'ouvrir une porte? Il n'y a rien qui puisse empêcher le Seigneur d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur, s'il le décide, ne pourrait ouvrir une porte. Dieu a ouvert une porte à Éphèse pour l'apôtre Paul. Une porte grande et efficace. Et ce qui m'encourage, c'est aussi de me dire que le Seigneur peut ouvrir une porte à Paris. Seigneur, cette ville est fermée à l'Évangile, hostile à l'Évangile. Tant d'immoralité, tant, Seigneur mon Dieu, d'incrédulité. Seigneur, c'est un temps où les gens se sont détournés de toi. Mais Dieu est capable d'ouvrir des portes. Et pas des petites portes, mais des grandes portes. Et des portes qui donnent un accès puissant à la ville qui est devant nous. Je voudrais vous faire noter maintenant ce point. Pas simplement Dieu place des portes, mais Dieu veut placer une porte ouverte devant nous. Paul demandait aux chrétiens de prier pour que Dieu ouvre une porte devant lui pour prêcher l'évangile. Colossiens 4, 3, il est dit, priez en même temps que Dieu pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Je pense qu'il avait raison de demander que Dieu ouvre une porte. Je préfère que le Seigneur nous ouvre une porte que de nous retrouver face à plusieurs portes. Au moins, quand il y a une porte, c'est vrai que les choses sont claires. Et nous l'avons lu dans le texte des Corinthiens, il dit, le Seigneur, il m'est ouvert une porte grande et efficace. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 8, Jésus parle à l'église de Philadelphie. Il lui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Deux choses sur tout ce que je viens de dire. La première, c'est que par moment, on peut s'interroger, Seigneur, quelle porte je vais prendre ? Parce qu'on aimerait bien qu'il n'y ait qu'une porte, mais des fois, il y a plusieurs portes et on ne sait pas trop laquelle il faut prendre pour suivre la volonté du Seigneur, parce que c'est notre désir. Alors, Jésus nous dit, j'ai mis devant toi une porte. Une porte ouverte. C'est bon de savoir que la porte que le Seigneur place devant nous, c'est une porte ouverte. Et deux choses. D'abord, il ne s'agit de pas la rater, évidemment, pas passer à côté. Comment savoir que la porte que Jésus a mise, que je vais prendre, vraiment, c'est la porte que Jésus a mise, c'est la bonne. Généralement, la porte que Dieu place devant nous, c'est celle à laquelle on n'avait pas pensé. Ça, c'est quelque chose de presque systématique. Nous, on pense à quelque chose, mais ce que nous pensons est très limité. Mais généralement, la direction que Dieu donne est tout autre, parce que Dieu, lui, voit les choses de plus haut, avec une autre dimension, avec une autre dimension de vision, mais aussi avec une autre dimension de foi et d'avenir. Alors, vaut mieux chercher, non pas ce que je désire, mais ce que Dieu cherche. Seigneur, vers où veux-tu m'amener ? Et puis, je le dis, c'est aussi une porte que Dieu ouvre. Jésus dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Quand Dieu place une porte devant nous, ce n'est pas simplement une porte fermée. Seigneur, t'as oublié de me donner les clés ? Non. Quand Dieu met une porte, elle est ouverte. Autrement dit, nous n'avons pas à devoir pousser la porte. Seigneur, c'est dur pour y rentrer, hein. C'est sûr que c'est là que tu veux. Non, si vous devez pousser, sachez que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Nous n'avons pas non plus à la forcer, ni même à l'enfoncer. Nous avons à la franchir, parce qu'elle est ouverte. L'apôtre Paul était très motivé, très zélé, évidemment, pour la prédication de l'Évangile parmi les nations. Certainement, dans son cœur, il y avait tellement d'idées. Ah, je pourrais aller prêcher l'Évangile dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, auprès de cette nation qui n'a jamais entendu parler du Seigneur. Mais Paul avait appris qu'il devait d'abord se tenir dans la prière et attendre une direction de Dieu, une porte qui s'ouvre pour lui. Il avait appris qu'il ne fallait surtout pas forcer les choses. Forcer une direction, forcer une porte. Parce que faire cela, c'était s'exposer à se retrouver tout seul, sans la couverture du Saint-Esprit, au-delà. Et il n'est pas le seul à l'avoir appris, n'est-ce pas ? Et nous disons, Seigneur, vaut mieux savoir attendre que de vouloir aller trop vite, taper dans la porte, pour ensuite se retrouver tout seul. Seigneur, viens me secourir ! Oh, Dieu est capable de le faire, mais ça nous éviterait beaucoup de soucis que de savoir attendre que Dieu ouvre la porte. Et ça m'amène justement à parler maintenant de ce troisième petit point. Dieu ouvre la porte, c'est lui qui ouvre la porte, et il ouvre la porte qu'il veut, quand il le veut. Si vous regardez dans Actes 16, 6, Nous sommes au début du deuxième voyage missionnaire de Paul. Et Paul vient de faire la visite, la tournée des églises qu'il avait implantées lors du premier voyage avec Barnabas, les églises de Galatie. Maintenant, ayant fait cette visite pastorale, il se propose de nouveau à aller vers de nouvelles contrées pour y annoncer l'évangile. Alors, presque naturellement, il va se dire, je suis en Galatie, je vais aller dans la région d'à côté, la région d'Asie, la région de la grande ville d'Éphèse. C'est certainement là un très bon endroit pour y prêcher l'évangile, et c'est certain que c'était un très bon endroit pour y prêcher la parole. Alors, il se met en route avec Timothée, avec Silas, et puis voilà, le texte nous dit au verset 6 qu'il est empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, si c'est un événement naturel, si c'est un trouble dans son cœur. Bon, le texte ne nous dit pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le verbe empêcher nous parle d'un refus ferme. Un refus. Un refus de la part de Dieu. Soit que les circonstances ne le permettent pas, soit que dans son cœur il est troublé, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si un serviteur de Dieu doit savoir entendre les oui de Dieu, il doit encore plus savoir reconnaître les noms du Seigneur. Et je vais même vous dire, il est plus important de reconnaître quand c'est le Saint-Esprit qui nous empêche d'entreprendre quelque chose ou d'aller quelque part que lorsque c'est Satan ou les hommes. Parce que lorsque Satan ou lorsque les hommes nous disent non, Dieu est capable de transformer ce non en oui. Mais si Dieu dit non, personne ne peut transformer le non de Dieu en oui de Dieu. Mais pour l'apôtre Paul et pour ses deux compagnons, les semaines qui ont suivi n'ont pas dû être très amusantes. Parce qu'à l'époque, évidemment, ils voyageaient la plupart du temps à pied. Et les distances étaient donc multipliées. Et quand ils sont retrouvés là face à un non du Seigneur par rapport à l'Asie, ils sont montés au nord, et puis au nord, la porte s'est fermée encore, ils n'ont pas pu y aller. Pendant, j'imagine, ça a duré des jours, des semaines, à chercher une direction de Dieu. Une porte se ferme, on dit, bon, d'accord, ok, Seigneur, tu fermes une porte, mais quand c'est une deuxième, une troisième, on dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, jusqu'à présent? Voilà, je suis ton serviteur, mon Dieu, je vais là pour témoigner de toi, je vais là pour ta gloire, pour ton nom, et tu me dis non à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et ça peut amener, vous le savez, quand Dieu nous dit des noms comme ça au fur et à mesure, amener la perplexité, parfois la déception, l'incompréhension, voire même le doute. Première chose, quand Dieu disait non à Paul, ce n'est pas qu'il désapprouvait Paul. Pas une désapprobation vis-à-vis du ministère de Paul. Mais c'est tout simplement la porte que Dieu ne voulait pas ouvrir. Dieu reste le maître de nos vies. Il est le maître de la moisson. Il est le maître des portes. Il est le maître de la mission. Mais je voudrais vous dire, deuxième moment, les noms, les portes fermées nous conduisent toujours vers un oui de la part de Dieu. Parce qu'alors qu'il n'y avait qu'une suite de noms, et à droite, c'est pas possible, à gauche, c'est pas possible, à droite, c'est pas possible, au nord, au sud, où est-ce qu'on va aller? Eh bien, il ne se rendait pas compte que finalement, à ce moment-là, Paul était comme dans une espèce d'entonnoir. Et plus les noms du Seigneur le faisaient ricocher, et plus il arrivait vers le goulot. Et bientôt, il arriverait dans cette ville de Troas. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et Troas était un port. Et dans cette ville, Paul reçut un songe, la vision d'un Macédonien, d'un homme de Gaïs, d'un homme de l'autre côté de la mer, qui lui disait, Paul, viens, passe, viens nous secourir. Et l'apôtre Paul en conclut que Dieu lui ouvrait une porte qu'il n'avait pas imaginée, sur laquelle il ne pensait même pas, la porte d'un nouveau monde, la Grèce, le monde occidental. Et Paul est ainsi avancé dans ce projet que Dieu avait formé pour lui et formé pour ses nations. Paul n'avait pas eu tort vis-à-vis d'Éphèse. Il y reviendra plus tard. Mais ce jour-là, il apprit que c'est Dieu qui conduit les choses. Les noms de Dieu, N-O-N, nous amènent toujours vers un oui puissant du Seigneur. Ne soyez pas frustrés quand Dieu vous dit non, quand vous avez l'impression de vous prendre une porte au nez. Les hommes claquent des portes au nez. Mais quand une porte est fermée par Dieu, sachez que quelque part, il y en a une ouverte qui vous attend. Alors trop souvent, nous voulons imposer à Dieu l'endroit ou le temps où il doit placer ou ouvrir une porte. Seigneur, voilà la bénédiction que je veux. Et il me semble que cette porte, ce moyen, c'est parfait pour l'atteindre. Ou alors nous disons, Seigneur, ça serait pas mal que ça se passe maintenant. Hein, qu'en penses-tu? Seulement, Dieu place la porte qu'il veut. Qu'il veut. Devant nous, et l'ouvre autant qu'il veut. Je voudrais maintenant parler de trois caractéristiques de la porte que Dieu a ouverte à Paul, et que je crois qu'il ouvre aussi devant chacun d'entre nous. Quand Dieu ouvre une porte, premièrement, il l'ouvre en grand, pour que nous puissions la franchir franchement des deux pieds. Dieu n'entrebâille pas les portes. Oh Seigneur, c'est à peine ouvert, hein. J'ai mis un pied, mais j'ai du mal à avancer. Écoutez, avec Jésus, c'est oui ou c'est non. C'est pas oui, non. Soit la porte est ouverte, soit la porte est fermée. Mais la porte n'est pas entrebâillée avec Jésus. Oh, ça ne veut pas dire qu'au début, elle est forcément, je vais y venir, grande. Elle peut être étroite de passage. D'ailleurs, la porte du salut est étroite de passage. Mais étroit ne veut pas dire entrebâillé. C'est différent. Parce que étroit nous parle d'une porte ouverte, une porte d'humilité, une porte où nous n'arrivons pas avec tous nos bagages, une porte qui a été taillée pour que nous passions, moi et moi tout seul, je vais le dire comme ça, presque tout nu, sans rien. Mais c'est une porte ouverte. Ce n'est pas une porte entrebâillée. Et c'est vrai que la porte que Dieu a ouverte, et il l'a ouverte en grand devant l'apôtre Paul, c'est une porte qui a amené l'évangile à rayonner d'une manière extraordinaire. Je le disais au début, non seulement dans la ville d'Éphèse, mais dans toute la région d'Asie qui était autour. Pendant plus de 2 ans et demi, l'apôtre Paul n'a pas cessé de prêcher, d'enseigner tous les jours pendant des heures et des heures. Et c'est ainsi des multitudes qui ont entendu parler de l'évangile. Dieu est prêt à nous ouvrir une grande porte. Deuxièmement, quand Dieu ouvre une porte, elle est efficace. En grec, c'est le mot énergès qui a donné énergie, actif, agissant. Et c'est vrai que la porte que le Seigneur a ouverte à Éphèse pour Paul, waouh, quelle porte! Que de signes! Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une doctrine. Les gens apportaient des vêtements, des tissus, des je ne sais pas quoi, et essayaient de toucher l'apôtre Paul. Recueillir un peu de sa sueur après qu'il ait bien prêché, et après ils allaient voir les gens malades, et les malades étaient guéris. Non, ce n'est pas une doctrine. Mais ce sont des choses qui arrivent des fois dans les temps de réveil. Quand l'Esprit de Dieu agit, oh, qui pourrait le contenir dans des choses qu'on voudrait absolument, il faut que ça se passe comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les reproduire systématiquement, car c'est Dieu qui agit comme il le veut. En tout cas, une porte efficace, des signes, des miracles, des délivrances, des victoires spirituelles qui ont amené une grande crainte sur cette ville d'Éphèse. On a vu combien les gens se sont détournés de leurs pratiques occultes. Les gens ont amené ce que j'appelais tout à l'heure les grimoires d'Éphèse. Ces livres qu'ils ont brûlés, c'est des livres de sorcellerie, des livres de sortilèges. Et ils ont brûlé cela, une valeur de 50 000 pièces d'argent, autrement dit 50 000 journées de travail. Brûlé comme ça. Parce que maintenant, il n'y avait qu'un livre qui comptait, c'était la parole de Dieu. On a parlé aussi de cet impact social, de cet impact politique, religieux, économique. Vous savez que dans le texte d'Acte 19, après, il y a un certain Démétrius qui était le leader de la corporation du syndicat des orfèvres d'Éphèse, qui était réputé pour fabriquer localement et non pas en Chine des répliques en argent du temple de Diane. Mais depuis que plus personne ne voulait aller au temple de Diane, mais aller à l'école de Tyrannus pour entendre l'évangile, ils vendaient plus de temples. Et ces messieurs étaient fortement mécontents de ça, au point de créer une sédition, un trouble. Quand l'évangile agit dans une ville, il y a tout qui bouge. Politiquement, religieusement, économiquement, socialement, culturellement, c'est la puissance de la parole de Dieu. Troisième chose, quand Dieu ouvre une porte, il l'ouvre pour moi. Paul dit, une porte m'est ouverte. À moi, à toi, à nous. Jésus dit, j'ai mis devant toi, parlant à l'église de Philadelphie, devant toi une porte ouverte. Autrement dit, c'est une porte qui nous est personnelle. C'est ma porte. C'est pas la tienne, c'est la mienne. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu en as une. Tu n'en as pas une, pardon. Tu en as une, c'est pas la mienne. Tu as la tienne, j'ai la mienne, nous avons la nôtre. Et vous savez quoi? Cette porte, elle est adaptée à nous. Selon notre appel, selon nos capacités, selon la mission que Christ nous confie, selon la manière dont il veut nous bénir, Dieu nous donne une porte. Elle est donc unique. Et elle est non reproductible. Et la mauvaise idée, la très mauvaise idée, serait soit de jalouser la porte de M. Boulagnon. Oh, le Seigneur vous a donné une belle porte. Oh, quelle porte! Moi, à côté, ma porte, bon. Mais si je veux prendre la porte de M. Boulagnon, ce que Dieu lui a donné pour son ministère, pour sa vie, mais si j'essaie, mais ce n'est pas la porte adaptée pour ma vie, pour mon ministère, vous êtes d'accord? Et c'est ainsi, nous ne sommes pas là pour jalouser ce que Dieu nous donne, les voies que Dieu nous donne. Oh, lui, elle, oh, si vous voyez, quelle porte le Seigneur lui a ouvert dans son travail. Gloire à Dieu. Mais sache que Dieu est capable d'en faire autant pour toi. Nous ne sommes pas là pour nous jalouser les uns les autres. Ce que Dieu donne à l'un est parfaitement adapté à sa vie, à sa volonté de le bénir. Autre chose, surtout n'essayons pas d'imiter, de reproduire. Mais vous savez que c'est arrivé tant de fois. Dieu a béni dans cette vie de telle manière. Oh, voilà ce qui s'est passé. Ils ont eu tel miracle, ils ont eu tel réveil, il y a telle bénédiction, comme on dit. Ça, c'est le nec plus ultra. Alors, on va faire pareil. On le sait, je vais dire comme ça, c'est bête. C'est idiot de réfléchir comme ça. Mais pourtant, il y en a tant qui vont comme ça. Mais béni soit Dieu pour la bénédiction qu'il a donnée à ce champ, à cette ville, à cette église. Mais ce que je crois, ce que nous croyons, c'est que Dieu est capable de nous donner une bénédiction personnelle. Il est capable de nous ouvrir une porte pour notre église, une porte dans cette ville, une porte pour nos vies, une porte pour mon ministère, sans que j'aie besoin de reproduire ce qui se passe ailleurs. Le Seigneur a une porte pour chacun d'entre nous. Maintenant, ce qu'il advient de cette porte dépend de ce que nous en faisons. Paul dit une porte d'un accès grand et efficace, d'un grand et d'un accès efficace, mais ouverte. Oui, mais nous l'avons vu. Paul a franchi cette porte et il a travaillé durement pendant 2 ans et demi. Et il a combattu durement face à de nombreux adversaires. Il ne s'est pas contenté de dire « Seigneur, merveilleux, tu m'as ouvert une porte !» Mais il a travaillé. Et je vais vous dire même, c'est après plus de 2 ans de travail qu'il écrit aux Corinthiens et qu'il leur dit « Mais la porte que Dieu m'a ouverte est grande et d'un accès efficace. » Parce qu'au début, je suis convaincu qu'il ne se doutait pas que la porte que Dieu lui ouvrait à Éphèse, là quand il a rencontré, on ne l'a pas lu, les disciples de Jean-Baptiste, puis quand il a commencé à prêcher dans la synagogue et ensuite dans l'école de Tyrannus, au début, il ne pensait pas qu'il y aurait un tel impact. C'est qu'avec le recul qu'il réalise, mais Seigneur, le chemin que tu m'as fait, par lequel tu m'as fait passer est grand et efficace. Et s'il est devenu grand et efficace, oui, c'est parce que Dieu l'a voulu, mais c'est aussi parce que l'apôtre a travaillé. Nous avons cette mauvaise idée de penser que parce que nous voulons un réveil, oh, comme ça, on n'aura pas grand-chose à faire. Dans un réveil, on ne fait rien, Dieu fait tout. Alors oui, je comprends l'idée, je la soutiens tout à fait quand on dit on n'est plus acteur, on est spectateur, mais on n'est pas acteur, on est ouvrier. On est ouvrier. Parce que penser qu'un réveil se fait sans l'engagement des serviteurs de Dieu, c'est faux. Là où il y a un réveil, il y a des hommes et des femmes qui prient. Il y a des hommes et des femmes qui témoignent de Christ. Il y a des hommes et des femmes qui accomplissent la volonté de Dieu. Et c'est ce que Paul a fait avec Timothée, avec Silas, avec les frères qui étaient avec eux, avec Priscille et Aquilas. Ils ont travaillé pour la gloire du Seigneur et Dieu les a bénis. Voyez-vous, franchir la porte, c'est pas une fin en soi. Même si celle-ci nous offrirait un accès extraordinaire, un accès privilégié, ce qui compte, c'est ce que nous faisons au-delà de la porte. La porte, c'est qu'un moyen de passage. On ne va pas rester à la porte. Il nous faut avancer. Et les adversaires sont après la porte. La porte est une promesse. À nous de la transformer par notre travail, nos combats. Je vais prendre cette image. La terre, la porte grande et d'un accès efficace, c'est une belle terre, une bonne terre, bien, bien riche, bien grasse. C'est donc la promesse d'une belle moisson. Mais s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de défrichage, s'il n'y a pas de labour, s'il n'y a pas d'ensemencement, s'il n'y a pas d'arrosage, il n'y aura pas de moisson. On pourrait dire qu'à Éphèse, Apollos, qui est venu avant Paul, a labouré, a commencé à ensemencer. Et pendant 2 ans et demi, Paul, tous les jours, a pris soin de la terre que Dieu lui confiait, de la porte que Dieu lui avait ouverte. Et en travaillant ainsi, il a vu que Dieu était avec lui. Et la moisson a fini par lever. Mon dernier point, c'est de nous dire ensemble que Dieu nous a ouvert une porte. Mais vous savez, nous disons souvent, Seigneur, ouvre-nous une porte. Seigneur, ouvre-moi une porte. Comme nous disons, Seigneur, plus de puissance. En oubliant qu'il est écrit dans la parole que par sa divine puissance, Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors il y a eu cette pensée dans mon cœur, une pensée très forte. Pourquoi demandes-tu une porte ouverte alors que j'ai déjà mis une porte ouverte devant toi? Et j'ai cette assurance dans mon cœur que Dieu a déjà mis devant nous une porte ouverte. Nous n'avons peut-être pas encore réalisé combien elle est grande et efficace. Quel accès elle va nous donner dans cette ville. Ou plutôt, nous n'avons pas encore découvert toute la grandeur et l'efficacité de cette porte que Dieu a placée devant nous. Mais Dieu nous a donné une porte et nous l'avons déjà franchie. Nous nous sommes engagés sur le chemin qu'elle nous montrait. Alors oui, je veux proclamer avec foi que Dieu a mis devant nous une porte et nous a ouvert une porte dans cette ville de Paris. C'est une porte d'espérance pour les multitudes qui sont perdues loin de Dieu. Et je veux le dire, c'est une porte d'autorité, c'est une porte de puissance pour proclamer sa parole dans cette ville. Et cette porte, nul ne pourra la fermer, même si les adversaires sont nombreux. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser cela. Et des fois, ce sont les gens les plus près qui le voient le moins. Nous avons besoin, comme l'apôtre Paul, de nous arrêter un moment et de constater l'œuvre qui s'est faite. Seigneur, tu nous as ouvert, tu m'as ouvert une porte grande et d'un accès efficace. Et il faut entendre les frères qui passent comme ça, d'année en année, nous dire, mais Dieu vous a ouvert une porte. De nous encourager dans le ministère, de nous encourager dans la vie de l'Église. De nous dire, Dieu vous a ouvert une porte. Vous êtes le témoignage de cette bénédiction. Mais nous n'avons pas encore vu combien cette porte est grande. Nous n'avons pas encore vu combien cette porte est efficace. Et je crois que nous allons le découvrir dans les temps à venir d'une manière extraordinaire. Dieu a mis devant nous une porte qui appartient qu'à nous. Elle nous est propre, elle est unique. Aucune autre lui ressemble. C'est notre part dans son royaume. C'est une porte aussi nouvelle. Une nouveauté comporte toujours une part d'inconnu et peut susciter des hésitations. Et en mettant cette porte devant nous, Dieu nous pousse toujours à dépasser nos peurs et nos habitudes. Et nous n'en serions pas là si nous n'avions pas eu tous ensemble le courage de dépasser ces craintes pour aller vers quelque chose de nouveau, vers des choses qui n'ont jamais été faites. Et je vais vous dire que nous n'avons pas fini d'aller vers des choses encore nouvelles, vers des choses qui n'ont jamais été faites, que nous allons encore devoir dépasser nos habitudes, que nous allons encore devoir dépasser nos craintes, nos peurs. On pourrait dire, mais Seigneur, c'est bien ce que le pasteur dit, grande porte, oui, mais nous, regarde, c'est une porte étroite. Hein. D'ailleurs, c'est souvent la réflexion qu'on peut se faire quand on arrive dans ce bâtiment, mais il est vraiment étroit. Étroit en apparence. Du coup, on pourrait presque la manquer ou alors la mépriser, la trouver faible, surtout face à l'étendue du champ. Mais je vais vous dire, en persévérant, en travaillant, en combattant, Dieu va nous montrer combien cette porte est grande. Bien plus grande que les quelques portes qui sont à l'entrée là. Il va nous montrer que la porte qu'il a dressée pour nous, elle dépasse ce que nous voyons. C'est une porte spirituelle. Que Dieu nous ouvre les yeux sur cette porte. C'est une porte de feu. C'est une porte qui a été fabriquée par le Saint-Esprit. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir cette porte. Je veux voir cette porte dans toute sa puissance. pour réaliser, Seigneur, qu'avec une telle porte devant nous, au-dessus de nous, mais Seigneur, nous allons aller loin. Nous allons aller loin. Et peu importe alors les adversaires, leur arrogance, leur puissance, la porte que mon Dieu a dressée pour nous est plus importante encore que celle qui se trouve sur la place de l'Étoile ou les anciennes portes de Paris. La porte de mon Dieu domine tout dans cette ville. Elle est large pour accueillir tout le monde. Elle est puissante, plus haute que tous les édifices qu'on pourrait imaginer. Elle nous donne un accès puissant dans cette ville. Parmi les hommes, de toute classe sociale, de tout milieu, Dieu nous ouvrira des portes, nous amènera plus loin. Je voudrais vous dire aussi que c'est une porte, comme Jacob le dit, Seigneur, c'est ici la porte du ciel. Et la porte que Dieu nous donne, cette grande porte de feu, c'est une porte qui a une connexion directe avec le ciel, avec le Saint-Esprit. Et nous allons voir les anges descendre et monter. Et nous allons voir, parce que c'est ce que nous désirons, les miracles de Dieu. Nous voulons voir les signes, les miracles, les prodiges, la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, comme il est écrit dans ce texte, que la crainte de Dieu descende. Afin que ceux qui pénètrent dans l'assemblée soient saisis dans leur cœur avant même qu'une seule parole n'ait été dite. Nous voulons que les pensées des cœurs soient révélées par quelques paroles prophétiques, non pour juger, condamner, mais pour sauver. Cette porte nous donnera aussi un accès puissant contre le monde spirituel. C'est une porte d'autorité que Dieu a placée devant nous. C'est une porte qui annonce une moisson abondante. Aujourd'hui, ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, ce n'est que les prémices de tout ce qui est devant nous, de tout ce que le Seigneur tient en réserve devant nous. Mais je vous le dis, il faudra travailler, il faudra combattre, il faudra encore travailler plus dur, il faudra peut-être encore combattre plus dur parce que les ennemis et les adversaires seront encore plus redoutables et plus nombreux. Mais quand je regarde à cette porte que Dieu a ouvert pour nous, je me dis, si elle est là, c'est parce qu'elle témoigne de ta volonté de sauver une multitude d'hommes et de femmes dans cette ville. Alors, je veux finir en m'arrêtant sur cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16, verset 8. Quand il dit Seigneur, il dit aux frères de Corinthe, oh, j'aimerais venir vous voir, mais plein de projets sont là devant moi, mais il leur dit, néanmoins, je veux rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Je veux rester. Je veux rester jusqu'à la Pentecôte. Je veux rester, Seigneur, dans cette vision. Je veux rester dans cette dynamique. Je veux rester dans cet engagement. Seigneur, je pourrais avoir plein de projets, plein de possibilités à côté. Mais maintenant que cette porte est ouverte, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Je veux voir la gloire de Dieu. Alors mes frères et sœurs, restons dans cette vision, restons dans cet engagement. Seigneur, bientôt une Pentecôte est là pour nous, bientôt le ciel va s'ouvrir sur nous, bientôt nous verrons les miracles, nous verrons les guérisons, nous verrons les délivrances, nous verrons la main de Dieu agir au milieu de nous. Nous n'avons jamais été aussi proches de ce qu'on appelle un réveil. Nous n'avons été jamais aussi proches de pouvoir saisir la robe de notre Seigneur Jésus-Christ et de voir la puissance de Dieu descendre sur nous. Seigneur, bientôt, les écluses des cieux vont s'ouvrir. Et nous sommes là, mon Dieu. Nous attendons cette Pentecôte. Nous attendons ce moment glorieux, parce que tu as ouvert une porte pour nous. Je ne sais pas jusqu'où le Seigneur va nous conduire. Je vous l'ai souvent dit. On ouvre un quatrième culte. C'est déjà plein aux deux cultes du matin. Alors vous doutez bien qu'il va falloir bientôt qu'on fasse quelque chose d'autre. Sinon, vous encouragez déjà à aller au culte du samedi soir. Ça nous allégerait un petit peu. Ou du dimanche après-midi, afin de recevoir encore plus de frères et sœurs, d'amis. On va voir la gloire de Dieu. Et cette petite porte étroite à l'entrée, en apparence, Dieu va nous montrer que c'est une grande porte. C'est une grande porte. L'école de Tyrannus? Mais c'était quoi à côté du temple de Diane? Ah, le temple de Diane, ça c'était beau. Des colonnes de marbre, des statues, de l'or. L'école de Tyrannus? Là-bas, oui, là-bas sur la place, là, le grand bâtiment est là-bas. Oh, imposant, majestueux, ça c'est Paris là-bas. Hein. Mais ici, c'est quoi? Eh bien, je vais vous dire que là encore, pas simplement l'adresse, le bâtiment, mais l'église que nous sommes, ce lieu que nous sommes, que nous formons ensemble, viendra comme cette école de Tyrannus. Et viendra un temps où, tant mieux, les gens iront moins là-bas et viendront plus ici. Gloire à Dieu. Seigneur, nous avons faim, nous avons soif de voir ta gloire. Tu as commencé une œuvre et tu ne vas pas, Seigneur, t'arrêter jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Et nous voulons te dire que nous voulons rester dans cette vision. Seigneur, tu as ouvert pour nous une porte grande, tellement grande, que nous n'arrivons même pas à imaginer ses dimensions. C'est une porte, Seigneur, avec une connexion céleste. Mais c'est une porte aussi de puissance. C'est une porte qui nous donne un accès efficace, Seigneur, jusque au cœur de cette ville. Une porte qui nous donne un accès contre les ténèbres qui sont sur cette ville. Notre prière, mon Dieu, c'est de pouvoir rayonner par ta parole dans toute cette ville, tous ces arrondissements, ces banlieues et même au-delà. Notre prière, mon Dieu, c'est que tu étendes ta main pour qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges au milieu de nous. Humainement parlant, Seigneur, notre porte est bien petite, mais spirituellement parlant, qui pourrait la mesurer, mon Dieu ? Que ton nom soit sanctifié.